Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui nous allons parler du fichier bas élève.
Bonsoir à tous, bonjour à tous, nous écoutions une musique qui vient tout droit de Pristina. À toi Amanda.
Radio Libertaire 89.4, donc nous sommes donc les amis d'Orwell et aujourd'hui nous allons parler du fichier bas élève. Donc nous avons invité donc une directrice d'école élémentaire, Eve.
Bonjour.
Et un ancien directeur d'école donc qui a pris sa retraite cette année, Gérard Clavé.
Bonjour.
Voilà, donc vous avez signé l'appel donc des directeurs, donc vous refusez de participer au fichier bas élève. Peut-être pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le fichier bas élève.
Alors, bas élève est un fichier qui recense un certain nombre d'informations sur les élèves et leurs familles. Informations qui sont traditionnellement connues dans les écoles, à savoir le nom, la date de naissance, le lieu de naissance de l'enfant, le nom de ses parents, l'adresse, les numéros de téléphone. Informations qui, traditionnellement, nous aident à pouvoir contacter les parents en cas de besoin, à pouvoir envoyer un courrier. Le problème de bas élèves, c'est que ces informations, au lieu de rester internes à l'école, deviennent accessibles parce qu'elles sont littéralement mises sur... elles sont inscrites dans un fichier accessible par un certain nombre d'utilisateurs qui ne sont pas que des utilisateurs internes à l'école, qui sont aussi des utilisateurs dont on n'a pas connaissance, puisque en dehors des directeurs d'école qui saisissent ces informations, près de 400 utilisateurs de la base élève, enfin 400 personnes ont accès à ces données, 400 personnes qui peuvent provenir de différents ministères. Donc le problème de base élève aujourd'hui, c'est la saisie de ces informations, le fait que ces informations soient accessibles à des gens qui n'ont rien à voir avec l'école, et le fait que, en plus, ces informations puissent être croisées avec d'autres fichiers, et notamment des fichiers de la préfecture, des fichiers d'un certain nombre de services, de la Caisse nationale d'allocation familiale ou autre.
Donc ce fichier base élève, donc les données sont conservées 15 ans, c'est ça ? Et vous me parliez tous les deux tout à l'heure de l'identifiant national élève qui découle donc de la base élève. Vous pouvez en dire quelques mots peut-être, Gérard ?
Bah, c'est-à-dire que en fait, la base qui est créée à partir des entrées des enseignants et des directeurs, elle est récupérée dans une autre base qui contient le numéro national d'identifiant. C'est la BNIE qui est donc une base nationale d'identifiant élève avec les informations nominatives. Le danger de ce fichier, c'est que par rapport aux données que nous avions dans nos écoles, qui étaient des données internes, c'est une base qui est nationale, qui peut être croisée avec des tas d'autres fichiers. On a vu par exemple en Isère des informations comme les adresses mail des parents, puisque dans les fiches qu'il y avait à remplir, il y avait l'adresse mail des parents. Des parents se sont vus adresser des mails par des officines privées qui avaient récupéré leur adresse mail, puisque c'était seulement dans ce fichier qu'ils avaient donné leur adresse. Donc il y a porosité, on va dire, de ces fichiers, c'est-à-dire que n'importe qui, en fait, peut demander au propriétaire de la base de fournir un certain nombre de renseignements.
Et les parents ne sont pas forcément informés de l'existence de ce fichier base élève.
Bah, dans l'historique de la création de base élève, au départ, ça a été une expérimentation menée dans quelques départements et dans quelques circonscriptions éducation nationale. Et les entrées et la généralisation s'est faite totalement sans en avertir les parents. Il n'y a pas de formulaire qui a été envoyé aux familles pour leur demander l'autorisation d'inscrire leur enfant dans base élève, et ce n'est que les parents ont été avertis par les enseignants dans les conseils d'école. Enfin, je me souviens que dans mon conseil d'école, depuis le début, j'ai toujours prévenu les parents du danger et du fait qu'ils n'étaient absolument pas avertis de ce fichage.
Donc l'appel des directeurs d'école contre donc le fichier base élève, il a été lancé donc le 8 novembre 2008 à l'occasion donc d'une réunion des collectifs départementaux donc qui s'opposent aux bases élèves, et donc étaient présents notamment donc des représentants du syndicat Sud, le syndicat de la magistrature, la CGT, la Ligue des droits de l'homme, la FCPE donc pour les parents d'élèves, le MRAP. J'en oublie, et puis notamment aussi des représentants de votre syndicat, puisque vous faites tous les deux partie du syndicat SNUIPP, c'est ça, comme
exact.
Ça qu'on prononce, donc Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des Écoles et PEGC, donc un syndicat qui fait partie de la FSU. Eve, peut-être tu peux nous parler de ton parcours. Enfin, toi tu es donc directrice d'une école élémentaire en Seine-et-Marne. Ça serait intéressant de savoir comment tu as été informé de ce fichier base élève et qu'est-ce qui t'a décidé à t'opposer, donc à alimenter ce fichier.
Alors, historiquement, la première fois que j'ai entendu parler de base élève, c'était au cours de réunions et de formations syndicales à l'intérieur de mon syndicat, puisque des personnes s'étaient préoccupées de manière importante de l'existence de ce fichier. puisque sur un plan purement administratif, dans mon département, il se trouve que nous sommes très en retard et que seul, il y a que depuis cette année que la saisie des informations dans base élève est demandée au directeur. Et que des formations sont organisées pour cela. Moi, je suis directrice depuis... c'est la troisième année que je suis directrice. Donc, avant, j'étais une enseignante lambda, pas forcément très préoccupée des questions administratives de l'école. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu connaissance de ce fichier, étant directrice, je me suis dit non, moi, je ne ficherai pas les élèves, je ne saisirai pas des informations que je ferai circuler par Internet concernant mes élèves. Sans avoir véritablement de... C'était juste... Je dirais qu'au départ, pour moi, c'était juste une question de conscience. C'est-à-dire que non, je ne pouvais pas me dire que j'allais donner des informations qui n'étaient pas des informations personnelles que j'avais choisi de donner, donc des informations concernant d'autres personnes, et que je ne le ferais pas sans avoir les garanties et l'autorisation des parents. Il se trouve que les parents d'élèves et les enseignants de mon école me suivent complètement sur cette position. Donc, je dirais que le débat a lieu plus pour, eh bien, effectivement, sur le fond de la question, plutôt que sur la forme, puisque, effectivement, je suis totalement soutenue à la fois par les enseignants de mon école et par les parents d'élèves représentants. Qui ne souhaitent pas effectivement que leurs enfants soient fichés. Il faut savoir que quand la base élève a été donc officiellement créée, l'information qui a été donnée aux parents d'élèves donc au dernier trimestre 2008 a été que ce fichier allait permettre une meilleure gestion des écoles, allait faciliter le travail des directeurs. C'est totalement faux. Dans la mesure où les informations qui sont utiles dans ce fichier, comme je le disais au début, elles existent de toute façon de manière interne dans les écoles, mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'elles soient divulguées de manière large. Et la deuxième raison, c'est que je ne vois pas en quoi ça facilite le travail du directeur. Enfin, franchement, non, ça, on fait aussi bien avec un logiciel interne de gestion d'école. Voilà. Et pour ce qui est de transmettre des données juste à l'administration concernant les effectifs, les classes, etc., ben, on fait ça depuis des années sur papier, puis ça marche très bien.
Et pour le moment, il n'y a pas encore eu, donc on t'a pas encore demandé de remplir ce fichier, on t'a pas encore sollicité ou enfin.
Alors, on m'a sollicité pour participer à un stage auquel je suis allée, puisque il valait mieux à la limite savoir exactement de quoi il retournait pour pouvoir mieux affirmer ma position. Donc j'ai participé à ce stage, j'y ai posé énormément de questions sur l'intérêt que l'inspecteur de l'éducation nationale ait les noms des élèves de mon école, l'intérêt que l'inspecteur d'académie ait les noms des élèves de mes écoles. Donc des questions de ce type-là auxquelles je n'ai pas eu de réponse. Donc j'ai appris après la partie technique, hein, bon c'est pas compliqué quand même de saisir les informations, c'est des pages informatiques toutes faites. Et j'ai reçu tout dernièrement, c'est-à-dire il y a 10 jours, une invitation de mon inspection de circonscription à aller retirer la fameuse clé OTP, invitation à laquelle je ne me suis pas rendue pour l'instant. Voilà, j'ai verbalement dit que je ne me rendrai pas, je n'irai pas chercher cette clé.
Tu peux en parler en deux mots de cette clé ?
Alors la clé, c'est une clé de sécurité qui permet en fait... C'est un système anglais One Time Password avec un mot de passe qui change toutes les minutes et qui, combiné à un code PIN que connaît l'utilisateur, permet d'avoir un accès sécurisé à base élève. Cette clé permet donc notamment la saisie des informations dans base élève, mais va permettre à terme la remontée de toutes les informations concernant le fonctionnement de l'école, c'est-à-dire les résultats des évaluations, le fait que les élèves obtiennent ou n'obtiennent pas le brevet informatique et internet, qu'ils obtiennent l'attestation de sécurité routière, qu'ils obtiennent les attestations de langue, etc. Donc faire remonter tout un tas d'informations. Et je dirais même à terme, c'est une clé qui va être donnée à tous les enseignants, C'est-à-dire qu'en fait, individuellement, chaque enseignant sera à même de saisir les informations concernant les élèves, d'avoir accès à son propre dossier par ce biais-là, alors qu'aujourd'hui, on a accès à notre dossier papier ou par communication mail privée avec le gestionnaire de notre dossier.
Est-ce que tu as eu une injonction d'utiliser cette clé ? Enfin, comment a eu lieu la communication par rapport à cette clé, par rapport à l'obligation de rentrer toutes ces infos-là ?
Alors, pour l'instant, dans mon département, il n'est pas question d'obligation. Ailleurs, malheureusement, oui, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs de circonscription exercent une pression considérable sur des collègues directeurs. Dans mon département, pour l'instant, il n'y a pas cette pression. On nous a gentiment invités en deux lignes à venir à une réunion, retirer la clé de sécurité et à signer la charte. Charte qui engage le directeur qui prend la clé à une responsabilité très importante vis-à-vis de cette clé. Il ne doit surtout pas la perdre, il ne doit surtout pas la laisser accessible à d'autres personnes. Il doit être extrêmement vigilant quant à l'utilisation de cette clé. Voilà. Donc, pour l'instant, dans notre département, ça n'est pas allé plus loin que ça, à ma connaissance.
Donc, toi, Gérard, jusqu'à l'année dernière, tu étais directeur d'école élémentaire dans l'Oise.
Oui.
Donc, peut-être tu peux aussi nous parler de comment tu as pris connaissance de ce fichier et puis comment ça se passe dans l'Oise.
Oui. Moi, j'ai été directeur pendant 15 ans, jusqu'en septembre 2008. L'apparition de base élèves, c'est la suite en fait des mouvements des directeurs, la grève administrative des directeurs qui refusaient de donner en début d'année les résultats statistiques papier, une enquête, et parce que on considérait que notre statut n'était pas reconnu avec la charge de travail que l'on a en tant que directeur. Donc une manière de l'administration de tourner cette difficulté, parce que dans certains départements, il y avait 60% de directeurs qui faisaient la grève administrative. Bon, dans l'Oise, c'était pas tout à fait le cas. Une des manières de tourner cette difficulté, c'était de créer le fichier base élève. Parce que ça permettait à ce moment-là de rentrer des données et ils avaient en direct les données des élèves, plus besoin de remplir cette enquête 19 qui était l'enquête de début d'entrée. Donc c'est comme ça que on a commencé à entendre parler d'un fichier général appelé base élèves. Bon, après, ce sont les informations qui sont apparues sur syndicalement qui nous ont été données. On a eu connaissance par internet des adresses qui nous permettaient d'aller tester l'expérimentation, parce que en fait dans l'historique de base élève, c'est un historique qui a évolué. La première base qui a été créée, c'était une base avec des renseignements dont on se demande vraiment ce qu'il faisait, quelle était la nécessité, si ce n'est de rechercher à stigmatiser des populations, langue d'origine, pays d'origine, absentéisme, qui vous emmène à l'école le matin ou pas. Donc il y avait des tas de critères qui ont été qui au départ étaient mis en place. Déjà, il y a certains enseignants qui ont réagi et certains syndicats qui ont réagi devant cette profusion de...
Donc là, on en donc ça, c'était la première version de base élève.
C'était la première version de base élève. Voilà. Hein, la première version. De 2004 jusqu'à 2008, puisque en fait, elle a évolué à partir de juin 2008 où l'administration a fait marche arrière et est revenue vers une version soi-disant plus light de base élève en retirant les critères qui avaient posé question à certains parents, à la FCPE qui avait déjà réagi, la Fédération de parents d'élèves qui avait déjà réagi sur les critères de nationalité et de pays d'origine par exemple. Donc ça a été retiré, mais aussi, et ça explique la création du système de clés OTP, c'est que c'était un système qui était ouvert à tout vent, c'est-à-dire c'est-à-dire que n'importe qui, avec un petit raisonnement, un raisonnement pas très compliqué informatique, pouvait aller voir le contenu de la base élève de n'importe quelle école du territoire. Moi, expérimentalement, je suis rentré dans une base d'une école de Marseille. J'ai prévenu ensuite le directeur en lui disant tu vois, ta base n'est pas protégée, puisque moi, de l'Oise, je peux aller voir quels sont les élèves, quelles sont les institutrices, quels sont les instituteurs qui sont dans ton école. Donc c'était avec l'ouverture. Donc devant cet état de fait, ils se sont rendus compte que ils avaient mis sur le marché quelque chose qui était ouvert à tout vent. Ils ont mis en place leur système de clé OTP, qui, entre parenthèses, est un système très onéreux, parce que acheter des clés OTP, avoir le marché, c'est quelque chose qui est relativement cher et qui coûte à l'éducation nationale, donc à la collectivité.
Donc là, cette clé, elle a été mise en place très récemment, c'est ça ?
Oui, très récemment, oui.
En février là, 2009.
Elle a commencé dans certains départements avant la distribution. Elle a été faite avant, mais elle s'est généralisée en janvier 2009. Où là, dans les circonscriptions, dans les départements, il y a injonction, mais c'est une injonction rampante, on va dire, parce qu'en fait, on convoque, comme l'a expliqué Eve, on convoque les directeurs à venir soit à une réunion d'information, où on les appelle à venir, à passer à l'inspection départementale, ou l'animateur TIS, c'est-à-dire la personne qui est chargée du développement des techniques informatiques et de la communication dans la circonscription, de passer dans les écoles et de distribuer cette clé, en obligeant les personnes qui reçoivent cette clé et qui l'acceptent à signer un engagement de responsabilité par rapport à l'obtention et à l'utilisation de cette clé.
Là, j'ai un coût de la clé OTP, donc ça serait entre 3 millions d'euros hors taxe et 5 269 999 euros hors taxe.
La clé.
La clé, ouais, oui. Donc effectivement, c'est... Alors, dans l'Oise, ça fait combien de temps qu'on vous demande... Parce que juste, je pense qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que depuis l'arrêt du fichier base élève qui est sorti en octobre 2008, c'est ça ?
Oui.
Jusqu'ici, donc expérimentalement, entre guillemets, parce qu'on parle d'expérimentation, mais il n'y a pas eu, je crois, ensuite de laps de temps de réflexion... On est passé directement...
On est passé du soi-disant expérimental à l'obligation directe. C'est-à-dire que janvier 2009, il faut que les directeurs ou les directrices, parce qu'il y a plus de directrices que de directeurs, prennent cette clé, s'engagent à utiliser et sont donc responsables de l'utilisation. Donc, quelque part... s'engage à rentrer dans base élève. Mais on sait très bien que c'est pas parce que tu as une clé que si tu veux résister, tu peux toujours résister. C'est pas... Hein, parce que je connais des directeurs et des directrices de l'Oise qui ont la clé sur leur porte-clé, mais qui ne l'utilisent pas.
Oui, puis donc comme ce fichier base élève a été rempli au fur et à mesure par différents directeurs depuis 2004, donc il y a effectivement donc des informations, j'imagine, ou alors ça a été enlevé qui concerne donc comme on disait tout à l'heure l'année d'arrivée en France, le suivi médical ou psychologique, le handicap éventuel de l'enfant. Donc il y a des rentrées de cet ordre-là qui sont des données de cet ordre-là qui ont été rentrées dans la base.
Oui, parce que de toute façon toute base une fois que le formulaire est rempli en ligne, c'est la création, la base, c'est la création d'un fichier informatique qu'on peut sauvegarder. Donc, sous n'importe quel tableur ou base de données informatique, les données, elles sont conservées. Donc, et ça, en fait, l'autre problème de base élève, c'est qu'on ne sait pas réellement quel est le propriétaire de base élève. Parce que base élève a deux principes, publiquement, a deux têtes ambivalentes, qui sont les mairies qui doivent rentrer certains renseignements et les écoles qui doivent rentrer d'autres renseignements. Mais ces deux parties sont cloisonnées, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes formulaires, Il y a bien sûr le nom, le numéro INE. Une fois qu'il est rentré, il peut être retrouvé, puisque dans certaines communes, ce sont les mairies qui ont d'abord rentré les noms des élèves et des inscriptions, et que les écoles les ont récupérés après, ils n'avaient pas à les re-rentrer. Mais il y a d'autres renseignements qui sont différenciés des mairies et des écoles. Mais pour avoir accès à ces deux parties, puisque nous, normalement, à Éducation nationale, on n'a pas accès aux mairies et les mairies n'ont pas accès aux données Éducation nationale, il y a forcément un troisième qui, lui, possède toutes les données. Et qui c'est ce troisième ? Eh bien, ça, on ne sait pas.
Je vous propose qu'on écoute un morceau de musique.
C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère, si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ,
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Je cherche sans y parvenir une position pour dormir.
Aboie le chien, ulule la chouette.
Je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vole des tours, une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours.
Pourvu d'un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat, bonne à manger, pas pour le lucre.
Je les cacherai pas sous mon matelas.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ,
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Mais le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Jour se lève, si vous trouvez la fève.
On écoutait Thomas Fersen.
Donc vous êtes toujours avec les amis d'Orwell. Aujourd'hui on parle du fichier base élève, donc un fichier qui s'est mis en place progressivement depuis 2004 et qui en fait est donc depuis l'arrêté donc en octobre 2008, qui est maintenant on va dire obligatoire. Enfin, je ne sais pas trop exactement si c'était vraiment obligatoire avant ou pas, mais en tout cas maintenant c'est officiel. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il existe un fichier un peu du même type, ce qu'on appelle le SCONET, dans les collèges et lycées. Comment expliquer, en fait, donc ce fichier il existe depuis 95, comment expliquer qu'il y a un mouvement donc contre le fichier base élève dans les écoles élémentaires, alors qu'il n'y a pas eu de réaction dans les lycées et collèges?
Alors, concernant SCONET, c'est un fichier, effectivement, qui concerne les collèges et les lycées, les collèges étant gérés par les départements et les lycées par les régions, mais qui est un fichier totalement interne à l'éducation nationale et dont effectivement les données ne sont pas transmissibles à une autre administration. Enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'imagine que techniquement, il serait possible aujourd'hui de créer, d'ouvrir un portail sur ce fichier-là. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est un fichier interne à l'éducation nationale, donc qui recense lui aussi un certain nombre d'informations sur les enfants et leurs familles, et qui permet effectivement aussi de recenser, de noter les bulletins scolaires, de faire un certain nombre d'informations de gestion au niveau de l'orientation des élèves à la fin du collège, à la fin du lycée. Donc voilà. C'est un fichier qui, effectivement, n'a pas connu, les déboires de base élève. Donc, d'abord pour cette première raison, qu'il est interne à l'éducation nationale et donc pas accessible par d'autres administrations. Et du fait aussi que dans le second degré, les établissements sont gérés par des gens qui sont de purs administratifs et dont, effectivement, les fonctions... et les statuts sont différents. Dans les écoles, tout le monde est enseignant. C'est-à-dire que même le directeur d'école est un enseignant, donc qui peut être effectivement, en voyant le bas élève, a pris conscience du danger que ça représentait de saisir les informations concernant les enfants. Dans les collèges et les lycées, les personnes qui s'occupent de la saisie des informations concernant les élèves ne sont pas en lien avec ces élèves, ne sont pas en lien avec les familles, ce ne sont pas eux qui s'occupent des relations avec les élèves et leurs familles. Donc peut-être que c'est pour cette raison, entre autres, que SCONET n'a pas connu ces problèmes-là.
Et Gérard, tu relevais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, tu parlais de la loi de prévention de la délinquance.
Oui, en fait, c'est la... perméabilité des fichiers. Normalement, le fichier base élève est séparé donc entre les mairies et l'éducation nationale, mais dans la loi de prévention de la délinquance, il est permis au maire d'une commune d'aller demander à l'inspection académique des renseignements spécifiques auxquels lui, il n'a pas accès. Les mairies n'ont pas accès, par exemple, normalement à l'absentéisme, aux résultats scolaires, mais par l'intermédiaire de la loi de la prévention de la délinquance, il est tout à fait possible à un maire de cibler des populations à risque dans sa commune. On voit d'ailleurs sur la multiplication des fichiers dans la loi Borloo et sur les lois spécifiques sur la ville, la politique de la ville, d'autres fichiers qui sont en train de se former de fichage des populations, quoi.
Donc il y a un fichier aussi sur l'absentéisme, c'est ça qui est en création, hein.
Oui, ben ça c'est spécifique sur la politique de la ville, sur certaines zones particulières où on essaie de recenser l'absentéisme et d'en faire afficher, quoi.
La première mouture de bas élèves, donc il y avait des champs qui concernaient la nationalité, et donc un des risques que les opposants ont vu, j'imagine, c'est la chasse aux élèves sans papier, j'imagine. Enfin, et ce risque est écarté, alors, maintenant, dans la nouvelle mouture ou pas?
Absolument pas. Ce risque n'est pas écarté. Alors, justement, moi je dirais que ce qui fait que je tiens et que je tiendrai contre Bas-Élèves jusqu'au bout, c'est notamment cette possibilité extrêmement simple, par l'utilisation du fichier Bas-Élèves, de repérer les enfants de parents sans papier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre un élève dans la base élève, on rentre la date à laquelle il a été admis à l'école. Si c'est un enfant de plus de 6 ans qui est admis à l'école pour la première fois, et quand on saisit dans la base élève le nom d'un élève, son adresse, etc., s'il n'a jamais été saisi auparavant, c'est donc une nouvelle création. S'il arrive d'une école précédente, il a déménagé, on le voit apparaître, on voit apparaître sa fiche, il n'y a qu'à faire les modifications concernant sa nouvelle adresse, etc. Si c'est un élève qui vient d'arriver en France, c'est donc une création. Et donc le croisement de la base élève, enfin la lecture de la base élève permet déjà de repérer d'emblée tous les élèves nouvellement arrivés en France. Et comme la base élève est probablement aujourd'hui le seul fichier dans lequel les adresses des gens soient actualisés, soit réels, les parents d'élèves, ils donnent à l'école l'adresse à laquelle ils habitent. Ils ne donnent pas l'adresse de l'association qui reçoit leur courrier. Ils donnent leur vrai numéro de téléphone. Ils donnent l'endroit s'ils travaillent, ils donnent le nom de leur employeur. Et ça, c'est une... Sans même aller croiser le fichier avec autre chose, ça permet effectivement de sortir les fiches de tous les enfants d'élèves sans de parents sans papier.
Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, donc c'est la lutte en fait contre ce fichier bas élèves, puisque au départ c'était des luttes plutôt départementales, donc on a vu que ça s'est mis en place progressivement de manière expérimentale à partir de 2004, et donc il y a une date qui est intéressante, enfin qu'il faut donc renoter, c'est le 8 novembre 2008 à la Bourse du Travail de Paris. Donc il y a une vingtaine de collectifs de départements qui s'opposent au fichier bas élèves, donc en tout 75 personnes qui se sont réunis pour créer donc le CNRBE, donc le
collectif national de résistance à base élève.
Voilà. Donc bon, peut-être on peut dire on peut en parler un petit peu. Donc comment se passe la lutte?
De toute façon, comme toute organisation qui se cristallise, elle est quand même le résultat de d'activités en amont. C'est-à-dire qu'en fait, des réactions syndicales, moi dans mon département étant directeur mais aussi secrétaire adjoint du SNUIPP Oise, depuis 2005, il y a des tas de publications, on a fait des tas d'articles montrant les dangers de bas élèves, donc bien avant la création du CNRBE. Mais il n'y a pas que nous, il y a aussi la LDH de Toulon qui a fait un travail phénoménal, il y a Corezo qui est une association rennaise qui a fait aussi beaucoup de travail sur le sujet. Donc il y avait toutes ces actions qui continue, hein, sur la LDH continue, Corezo continue, donc toutes ces actions qui ont légitimé un peu qui ont donné de la force à des individus pour créer une structure qui permettait de réagir. Cette structure, c'est une structure qui est apparue lors de la réunion du 8 novembre à Paris.
Donc là, il y a des actions qui sont menées, alors aussi bien individuelles ou départementales ou nationales. Je disais donc qu'il y avait des recours judiciaires à Grenoble et à Millau, donc des personnes qui ont porté plainte contre X, invoquant le non-respect de la loi informatique et liberté. Il y a aussi des personnes donc comme vous qui refusent donc de renseigner la base élève et qui ont été sanctionnées ou il me semble que l'administration tente de prendre des mesures contre vous en fait.
Ben, il y a principalement un cas qui est en Isère, qui est le cas de Jean-Yves Legal, qui est donc directeur d'une petite école en Isère, qui a refusé donc d'entrer dans base élève, et l'administration est en train de lui mettre la pression pour qu'il quitte son poste de directeur. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'il soit, elle ne veut plus qu'il soit directeur l'an prochain. en lui mettant la pression, en lui disant qu'il faut qu'il participe au mouvement, puisque on a un système où pour changer de poste on participe à un mouvement à des dates précises. Donc là, pour éviter d'avoir à gérer la situation du refus de Jean-Yves Le Gall, elle veut l'obliger à ce que de lui-même il participe au mouvement, c'est-à-dire qu'il quitte son poste de directeur, ce qu'il ne veut pas.
Sachant toujours qu'il n'y a aucune obligation à rentrer les informations dans le fichier base élèves. Pour l'instant, il n'y a aucune obligation à ça.
Il n'y a pas d'obligation, pardon. Vas-y.
En fait, l'arrêté du mois d'octobre, il porte création d'un fichier base élèves dans lequel donc il est fait état de l'ensemble des informations qui sont recensées dans ce fichier. Il porte la création de ce fichier, il explique en quoi ce fichier va servir les intérêts de l'éducation nationale, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'obligation sur le papier, c'est-à-dire qu'il nulle part il n'est écrit. Les directeurs ont pour obligation dans leur fonction de saisir les informations dans base élèves. Maintenant, la pression. Après, les inspecteurs se servent du statut qui est une absence de statut des directeurs pour dire ça fait partie des tâches administratives du directeur que de saisir dans base élèves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau de la résistance, ce qui motive les gens qui refusent aussi base élèves, c'est le fait que base élèves va totalement à l'encontre de tout un tas de lois qui sont au-dessus de cet arrêté. La première, c'est dans le préambule de la Constitution française, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 8 dit clairement que des informations ne peuvent pas être détenues ou saisies sans que la personne intéressée en soit informée. Un autre texte intéressant est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme de la Commission européenne ou du Parlement européen, je ne sais pas, Commission de sauvegarde des droits de l'homme, qui, pareil, dit précisément que toute information détenue sur une personne doit être accessible, doit être détenue avec l'accord de cette personne. Et enfin, le troisième texte important, c'est la loi sur informatique et liberté de 1978, qui porte justement sur la création de ces fichiers et la manière dont, effectivement, les individus doivent être protégés à titre individuel des administrations ou des organismes quels qu'ils soient qui souhaiteraient recueillir des informations et les stocker.
Donc il y a un recours en annulation qui a été déposé au Conseil d'État le 22 décembre 2008. Et il y a aussi un courrier daté du 6 février 2009 qui a été envoyé par le Comité des droits de l'enfant et qui somme la France d'expliquer par écrit aux Nations Unies. Alors je vous laisse expliquer peut-être, je peux citer. À quelle mission de service public servira le stockage au niveau national des données nominatives et d'indiquer les raisons pour lesquelles le droit d'opposition prévu par la loi ne s'applique pas à ce dispositif. Donc d'informer des conséquences éventuelles que pourrait entraîner le refus des parents de fournir les informations requises sur leurs enfants.
Oui, ce point de vue-là, c'est comme les plaintes déposées à Millau ou à d'autres endroits, c'est le droit des parents. C'est-à-dire, en fait, les parents se trouvent devant le fait accompli. On entre des informations personnelles sans que eux, à aucun moment, n'aient donné leur accord pour que ces informations soient mises dans les bases. Il faut rappeler quand même que base élève, c'est le fichage des enfants dès l'âge de 3 ans, puisque dès la maternelle, les enfants doivent être entrés dans base élève. Donc c'est un fichage qui peut déplaire aux parents, mais sur ce côté-là, c'est pour ça que les associations qui regroupent aussi des parents d'élèves ont déposé cette plainte, puisque la plainte, ça ne peut pas être les enseignants qui la dépose, puisque eux, ils ne sont que le véhicule d'informations qui sont mises dans la base.
Peut-être ce serait intéressant de nous dire ce qu'il y a comme projet, enfin de résistance par rapport au fichier base élève.
C'est-à-dire que nous, le CNRBE, son ossature, ça a été la première réunion. Joseph vous parlera certainement de la prochaine réunion qui doit se tenir le 25 avril dans la Drôme. Donc là, parce que ce sont des moments forts avec des intervenants sur des sujets très spécifiques, sur la plainte, sur ces données-là, sur les fichages. Mais aussi, il y a une action qui est une action menée via Internet. Parce qu'en fait, la création d'une liste de distribution a permis, une liste de diffusion, pardon, a permis de fédérer et de faire en sorte que les gens, les personnes, les enseignantes se sentent plus seules. C'est ça le gros écueil qu'il fallait éviter. Donc, toutes ces actions permettent la mise en action d'une résistance à base élève.
Et enfin, pour conclure, je dirais que la meilleure action de résistance qui soit, c'est celle qui vise à informer, éduquer toujours les gens, les parents, les enseignants, mais aussi les citoyens, de façon à ce qu'ils sachent, à ce qu'ils soient au courant de ce qui est fait, de ce qui est décidé, et à ce qu'ils puissent toujours se saisir de ce qui est fait pour pouvoir donner leur avis. Et c'est le meilleur moyen de résister. C'est évident que sans cette information la plus large possible, rien n'est possible.
Un dernier mot, Gérard, avant qu'on diffuse l'enregistrement donc de Joseph, un directeur d'école dans l'Aveyron.
Oui, je veux dire que l'action doit se généraliser. On essaie au maximum au travers de tous les contacts que l'on prend et puis que l'on essaie de d'essaimer ce combat. On essaie aussi de le faire passer via les organisations syndicales, parce qu'on sait très bien que toute action ne pourra se perdurer et puis agir véritablement que sous la pression et sous la pression d'une grande masse et pas sous... Mais ça n'empêche pas d'agir pour l'éveil et pour donner des informations et faire en sorte que le maximum de personnes soient au courant des dangers de cette base.
Peut-être on peut dire une chose aussi, enfin, ce qui nourrit une inquiétude générale sur la question de l'enfant, c'est aussi la prétention, entre autres, de gens qui sont proches de Sarkozy, de dépister dès le plus jeune âge des déviances psychologiques et ce genre de choses. Peut-être que ça participe de cette sensibilité qui naît chez les enseignants sur ces questions, je ne sais
oui,
pas.
Oui, on sent très bien la volonté, ouais. On voit très bien quel est l'objectif final, moi un des objectifs finaux de la création de telle base, parce qu'il y a base élève, mais il y a d'autres bases aussi qui sont mises en place. C'est un fichage généralisé. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un problème qui apparaît, on crée un fichier, on crée une base, soi-disant pour régler le problème, alors que c'est pas la solution pour régler le problème.
Merci Ève et Gérard. Donc on va écouter un enregistrement téléphonique de Joseph, donc directeur d'école dans l'Aveyron.
Bonjour Joseph Fila, donc vous êtes directeur d'école à côté de Saint-Afrique dans l'Aveyron et vous faites partie des personnes qui ont lancé l'appel des directeurs d'école contre le fichier base élève. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte ça s'est passé?
Alors, il faut savoir que, bon, vous savez déjà, donc, base élève existe depuis 2004. Dans les départements, des enseignants ont commencé à réagir. Ensuite, il y a eu des parents d'élèves. Puis, il y a eu toute une levée de boucliers quand il y avait des champs qui étaient litigieux, avec la nationalité notamment. Il y a eu une campagne de pétition qui est partie du Corézo, du côté de Nantes. Et voilà. Et puis après, dans les départements, ça continuait à résister. Des directeurs qui s'opposaient à leur hiérarchie, mais ils étaient tout seul isolé, des parents qui s'opposaient au fait que le directeur de leur école fiche leur gamin sans leur autorisation, ils ne tiennent pas compte d'ailleurs de leur refus de que leur enfant soit fiché. Donc tous ces gens-là étaient isolés. Dans un premier temps, ils sont tous regroupés en collectif.
Alors, dans la l'Aveyron, là.
Comment ?
Dans l'Aveyron, en fait. C'est pas
non, 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 ce sont des collectifs qui sont nés. Il y en avait une trentaine à la veille de la création du collectif national de résistance à base élèves, qui a vu le même jour, en même temps que cet appel des directeurs. Donc, il y avait une trentaine de collectifs dans l'Isère, dans la Drôme, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Tarn, dans le Lot, dans le Finistère, dans l'Aveyron, dans l'Ariège. Mais ces collectifs n'étaient pas structurés entre eux. Et donc, en fait, ça s'est passé récemment, ça s'est passé en novembre 2008 à la Bourse du Travail à Paris, que tous ces collectifs se sont retrouvés avec des représentants de la LDH nationale, avec des représentants de syndicats enseignants comme la CNT Éducation, comme la Fédération Nationale de l'Éducation, comme la CGT Éducation. Il y avait aussi le collectif anti-hiérarchie, le MRAP, enfin plein d'organismes qui s'opposaient au fichage de fait. Et lors de cette réunion-là, étaient aussi présents des directeurs. Et on s'est retrouvés à 8 dans le couloir de la Bourse du Travail, pendant qu'il y avait des commissions qui étaient en train de statuer. Puis on s'est dit, mais nous, il faut que de notre côté, on lance quelque chose. Alors on a fait un tour de table, est-ce que chacun est d'accord pour aller au bout, c'est-à-dire dans ces 8, est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu notre poste, c'est-à-dire qu'on a une fonction, notre fonction de directeur, et que si on refuse d'appliquer base élève, on savait quelles étaient les sanctions qui allaient nous arriver, c'est-à-dire on nous retire la fonction de directeur, et donc on nous met d'office dans une autre école. Donc ces 8-là ont été d'accord pour se lancer dans cette aventure. Alors, on a fait un appel qui est parti, et de 8, on pensait pas être 30 au niveau national, et en fait, au jour d'aujourd'hui, on est 189 directeurs à assumer les risques que comporte cette lutte contre base élève. Voilà, et le premier qui se voit touché et qui faisait partie du groupe des 8 est Jean-Yves Le Gall. Jean-Yves Le Gall, qui est directeur d'une petite école à 4 classes dans l'Isère, et qui s'est vu signifier la semaine dernière qu'au 1er septembre, eh bien, il ne serait plus directeur et que donc il devrait changer d'école. Voilà.
Et comment ça se passe en fait dans l'Aveyron ? Comment est né ce collectif dans l'Aveyron ?
Alors ce collectif est né après une réunion publique qui avait été organisée avec des gens que vous devez connaître, qui s'appellent Jean-Marc Reynaud et Tide Rossel, qui avaient écrit un bouquin où ils racontaient leur histoire, où en fait, dans leur école libertaire Bonaventure, ils hébergeaient un petit enfant qui s'est trouvé après être l'enfant de responsable de l'ETA. Et voilà, donc ils étaient opposés au fichage parce qu'ils montraient ce qui pouvait se passer si effectivement tous les enfants étaient fichés sur une espèce de liste. On pourrait ficher les enfants terroristes, mais plus simplement, ça c'est un cas extrême, les enfants de sans-papiers, hein, et puis à partir d'eux, retrouver les adresses des parents. Donc voilà, il y a eu cette réunion qui a été organisée par le réseau Éducation sans frontières et le syndicat solidaire, et puis de là, ben, on a créé un collectif contre le fichage base élève qui voyait le jour dans le département de l'Aveyron, c'était en 2007. Et il y a eu la FCPE, la LDH, le courant émancipé, la CNT, la Sud, enfin divers syndicats et aussi des citoyens qui étaient inscrits à rien du tout, quoi. Et on a commencé à alerter, à faire du bruit, à alerter les médias, à alerter les parents, à alerter dans les écoles avec du porte-à-porte, avec des tracts distribués à la sortie des écoles, à alerter les élus puisque les maires étaient concernés aussi. Voilà, et puis de fil en aiguille, ça a fait boule de neige, et puis il y a eu des manifestations dans les rues, il y a eu notamment dernièrement une grosse action, c'est en liaison avec le syndicat des avocats de France qui nous soutient. On a lancé une action de plainte au niveau national, de plainte contre X, c'est-à-dire contre la personne qui a lancé l'arrêté base élève, donc c'est Monsieur Darcos en fait, et on a déposé 244 plaintes. Il s'en est déposé 11 à Grenoble le même jour, et hier, à Marseille, il y en a eu 31 de déposées. Voilà, donc une action des parents qui demandent à ce que leurs droits soient reconnus, leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit le plus simple, c'est « je ne veux pas que mon gamin soit inscrit dans un fichier, point barre ». Voilà, l'éducation nationale au jour d'aujourd'hui ne tient pas compte de ce droit élémentaire, hein, qui est reconnu dans divers textes de loi, le bafouant ouvertement, et donc ces parents jouent la carte de la justice pour qu'on leur rende leurs droits élémentaires. Voilà.
Et est-ce que en Aveyron, est-ce que vous avez subi des pressions, est-ce que
Alors après, au niveau des directeurs, disons qu'il y a des retenues de salaire, hein, donc depuis le mois de février, il y a un 30e, un jour par mois, qui est un jour de salaire par mois qui est retenu. Et
sur quel
là,
critère
comment
sur quel critère, enfin pourquoi
pourquoi dit, parce que c'est vraiment très arbitraire, et nous au niveau cuisine interne, donc on va le dénoncer ça au tribunal administratif, on a pris des avocats, mais voilà, donc mais en fait c'est ça nous touche pas du tout, parce que on a une position éthique qui pour nous est très respectable et pour laquelle on se défend, et on peut nous retirer 10, 20, 30 jours de salaire, on s'en moque complètement, quoi, hein.
Mais ce que je comprends pas, c'est que l'arrêté, en fait, il a été signé au mois d'octobre. Oui. Donc comment c'est possible que vous ayez une retenue de salaire depuis le mois de... Ah non, c'est depuis de février, là, de cette année 2009.
Oui, oui, oui.
D'accord.
Et... il faut savoir quand même que l'éducation nationale avance sur des œufs, parce qu'elle se trouve confrontée à quelque chose qui est un petit peu nouveau, cette espèce de désobéissance dans ses rangs. Alors, outre le problème de Bas-Élèves, vous savez que sur Paris et en France, il y a plein de désobéisseurs, d'enseignants qui refusent d'appliquer toutes ces nouvelles réformes d'Arcos, quoi, hein, au niveau pédagogique. Nous, on en fait aussi certainement partie. Mais au niveau éthique, on n'appliquera jamais, jamais, jamais Bas-Élèves. Et donc là, ils vont se retrouver confrontés à quelque chose d'important. Et c'était aussi le but de cet appel, c'est-à-dire de faire un faux pas à l'éducation nationale, d'arriver à déplacer un certain nombre de directeurs de leur école, alors que souvent dans ces écoles, les directeurs, ils sont depuis plusieurs années, ils ont le soutien de leurs parents, le soutien de leur conseil municipal, de leur maire, etc. Donc ça va faire du bruit. Et en fait, mettre en jeu notre fonction de directeur, c'est aussi essayer d'amplifier le combat contre Bas-Élèves et qui petit à petit commence à faire écho dans les médias. Alors je vous parle, j'entends sur France Inter, il y a le téléphone sonne sur le fichage des Bas-Élèves, donc entre autres. Donc voilà, comme quoi c'est bien. Et voilà, et cette action des directeurs qui mettaient en jeu leur fonction, c'était ça, quoi. C'était faire parler de Bas-Élèves, quoi. Sachant que on n'est pas du tout des martyrs, que ce n'est qu'une fonction qu'on perd, mais on n'est pas viré de l'éducation nationale, qu'on est muté dans une école du département, mais pas dans une école de l'académie ou d'ailleurs, voilà, quoi. Donc faut aussi relativiser toutes les choses. Et comme c'est quelque chose comme c'est un levier sur lequel on peut jouer, et bien on s'arc-boute dessus, et puis on va bien voir si l'éducation nationale va aller jusqu'au bout, quoi. De sa logique.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre situation à vous plus personnelle, comment vous avez été amené à connaître en fait l'existence de ce fichier, enfin comment ça s'est passé et comment comment vous avez pu rencontrer le collectif dans l'Aveyron
Alors donc, moi je fais partie du syndicat Sud Éducation, et dès 2004 j'ai vu passer un document d'un Sud Éducation des Pyrénées-Orientales qui disait, oulala, faut faire attention, il y a un instrument de fichage, un outil de fichage qui est en train de se mettre sur pied, et en plus on va servir de l'école pour ficher tous les gamins dès 3 ans, quoi. Donc moi j'étais déjà sensibilisé à tous ces problèmes-là, parce que je me suis tout le temps dans ma carrière opposé à l'entrée des forces de l'ordre dans une école. Il se trouve qu'en 2004-2005, j'étais directeur d'une grosse école dans une grande ville du département, et qu'on avait essayé de mettre des personnes en relais dans les écoles pour pouvoir être en contact directement avec le commissariat de police. Et ça, j'ai toujours dénoncé, donc j'ai toujours été très sensible à l'entrée des forces de police dans les écoles. Et ça a fait tilt pour moi, cette histoire de fichage. Et puis après, c'est vrai que de par tout un tas d'autres d'aventures personnelles et professionnelles, j'ai toujours été contre le fichage en général. Et là, je trouvais scandaleux qu'on puisse se servir de notre profession, de notre métier de pédagogue, pour pouvoir mettre à jour, installer un fichage comme ça généralisé de tous les enfants et de la population, puisque 3 ans, vous vous rendez compte, en plus un fichage qui va être mis à jour, mais ça sera le plus au top, c'est-à-dire que le stick, par exemple, il y avait un pourcentage d'erreur, là, alors que ce fichage, chaque année, au mois de juin, il est mis à jour, et il est mis à jour aussi en septembre à la rentrée, donc voilà, ça va être vraiment un fichage... un fichier très 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 performant. Voilà, et puis après, ben donc je me suis bagarré au sein de mon syndicat pour que mon syndicat prenne des positions contre Bas-Élèves. Je me suis après bagarré au sein de mon département pour que dans le département il y ait des collectifs qui se créent. Voilà, et puis après dans la région où j'étais, puis parallèlement à ça, il y avait aussi l'appui des parents d'élèves de l'école et des écoles du Saint-Africain qui ont été à la pointe du combat. Et puis voilà, on a créé un collectif, et puis après c'est grâce à Internet qu'on est rentré en relation avec avec les autres collectifs de France, avec d'autres directeurs isolés, qu'on s'est dit, ben, il faut faire quelque chose, il faut coordonner tout ça, mais tout en laissant les libertés à chacun de faire d'agir comme ils entendaient, ce qui a donné naissance à ce fameux appel des directeurs, des 189 directeurs, donc il y a eu le prix Voltaire avec d'autres, donc au BBA, et puis aussi qui a créé, qui a permis la création du collectif national de résistance à Bazélève, dont la deuxième réunion se tient le 25 avril dans la Drôme.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Les amis d'Orwell sera de Libertaire 89.4. On se retrouve dans 15 jours.
In the space between you and reality, you would do and say anything to make your everyday life seem less mundane. There is fiction in the space between you and me.
J'ai vu la fête, le froid, la pluie, on dit du jaune tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un dieu rouge, il y aurait d'un gars, sans oublier de la faillette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, s'il est rinette, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, bien la tête. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains, on m'a cassé les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. Arthur, vous qui réalisez les rêves, vous ne demandez pas la lune ni la fortune, c'est aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer, veux dur, à quoi trouve la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et ben joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai de cyanure. Et s'ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes de toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro un. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moi, si y a Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.